Presidenta.
Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, en tant que rapporteur pays, j'aimerais saluer chaleureusement la délégation de la Belgique, un pays envers lequel je suis reconnaissante parce que j'ai eu l'occasion d'y passer du temps quand j'étais très jeune, à l'époque de mon adolescence. Il y a eu d'immenses progrès dans le cadre juridique et la politique de la Belgique, et il faut le reconnaître, tout particulièrement en lien avec la ratification de la Convention pour les travailleuses et travailleurs domestiques de l'OIT en 2015, la ratification, bien entendu, de la Convention d'Istanbul ou du Pacte d'Istanbul en 2016, également l'amendement au premier paragraphe de l'article 20 de ce même pacte, donc auquel vous avez adhéré. Il y a aussi des progrès au niveau de la fédération, des communautés, mais aussi au niveau local pour parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes. J'en viens maintenant au premier article de la Convention. Je vous fais part de notre préoccupation parce que notre convention est trop rarement invoquée par les tribunaux, elle est méconnue. Il n'y a pas suffisamment de formation pour les parties impliquées. En fait, les tribunaux nationaux sont ceux qui déterminent le caractère applicable des textes de la convention. J'aimerais savoir si vous avez prévu dans l'État partie de mettre en place dans la pratique et dans la loi des garanties juridiques suffisantes pour la pleine protection des droits consacrés par la Convention, pour que cela soit inscrit dans le droit interne de l'État partie. Concernant la définition de discrimination à l'égard des femmes, comme vous l'avez dit dans votre introduction, vous avez un cadre juridique étendu et vaste contre la discrimination et en faveur de l'égalité homme-femme. Mais malgré ces progrès, il y a encore des lois et des politiques, même des pratiques discriminatoires ou qui ont un effet discriminatoire contre les femmes. Par exemple, les définitions trop vagues dans les textes de loi de l'identité genre ou l'expression de la question genre en lien avec la discrimination sexuelle. Si l'on cite la loi du 22 mai 2014, il y a une certaine confusion dans l'application de la politique publique et cela, de fait, limite les droits des femmes. Il y a des exceptions pour l'âge minimum du mariage. Il y a la possibilité de stériliser une personne sans son consentement à cause de son handicap. Il y a aussi l'établissement par la loi de la garde partagée sans exception. Il y a aussi les politiques neutres en matière de genre. En ce sens, j'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous prenez pour garantir que l'égalité réelle entre les hommes et les femmes soit un principe fondamental applicable dans toutes vos lois et politiques. En ce qui concerne les mécanismes de plainte, au niveau fédéral, la Belgique dispose de différentes institutions liées aux droits humains, des institutions sectorielles qui ont pour mandat de se saisir et de traiter les plaintes individuelles. L'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a un institut interfédéral de l'égalité des chances et il y a aussi l'UNEAO, il y a aussi le Centre fédéral des migrations pour les droits des migrants, le MIRIA. Malgré cela, il n'existe pas de mécanisme, par exemple, pour porter plainte contre la discrimination linguistique. Pourriez-vous nous dire combien de plaintes et quel type de plaintes vous avez reçues de la part de femmes, tout particulièrement, surtout de la part de ces institutions, et quelles ont été les réponses? Comment a-t-on trouvé des solutions? Quelles sont les sanctions appliquées? Et j'aimerais savoir aussi, au sujet des femmes qui se sont adressées à ces trois organismes que j'ai cités, y a-t-il des données ventilées? Par exemple, en fonction de l'âge, du handicap, quel type de handicap, la région, la compétence, Y aura-t-il une institution compétente pour lutter contre la discrimination linguistique? Est-ce prévu? Concernant un autre point juridique, après les réformes qui ont eu lieu en 2016 et en 2020, a-t-on simplifié les procédures et les critères d'éligibilité pour l'accès à l'aide juridictionnelle primaire et l'aide juridictionnelle secondaire? Pourriez-vous nous fournir des statistiques au sujet du nombre de femmes qui ont eu lieu au cours de la dernière année à l'aide juridictionnelle gratuite primaire et secondaire ventilée par les facteurs pertinents que j'ai cités auparavant, donc âge, profession, handicap et autres. Concernant les femmes victimes de violences, les plaintes selon les informations dont dispose le comité ne sont pas toujours enregistrées par la police. Les agents fonctionnaires de l'État ne connaissent pas toujours ces domaines sur lesquels portent les plaintes. Ils n'orientent pas bien les femmes et ne les renvoient pas vers les services compétents. Il y a deux commissariats policiers qui ont une unité spécialisée d'attention aux victimes sexuelles et à la violence intrafamiliale. Tous les commissariats n'en disposent pas. J'aimerais aussi mettre en avant la situation préoccupante et particulière des femmes sans papier dans l'État parti pour l'accès à la justice. La loi continue d'obliger les services policiers d'informer le bureau des étrangers lorsqu'une victime sans permis de résidence se rend directement pour porter plainte devant la police. J'aimerais savoir en ce sens s'il est prévu d'élargir, d'agrandir le nombre d'unités d'accueil des victimes dans tous les commissariats du pays. Donc va-t-on augmenter le nombre et les dotés de personnel? Il y a des obligations des services d'informer les services de migration lorsqu'il y a une victime de violence sexuelle ou du service. La police doit-elle informer le service des migrations lorsque les victimes de violences intrafamiliales ou d'abus sexuels viennent s'adresser à eux? Que faites-vous pour les victimes de traite? Avez-vous pris les mêmes mesures? Quelles mesures avez-vous prises pour que les femmes appartenant à des groupes défavorisés, par exemple les femmes migrantes, les femmes handicapées ou les femmes roms, puissent porter plainte sans crainte? Garantit-on dans les commissariats ou dans les tribunaux de justice des interprètes dans leur langue ou des interprètes en langue des signes? Y a-t-il des aménagements raisonnables pour ces femmes, par exemple handicapées? Quelles sont les mesures prises pour que les victimes sans papier, sans ressources, aient elles aussi accès à l'aide juridictionnelle gratuite?